Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Victoria, Reine d'un siècle, Joanie Moulin propose une biographie historique de Victoria 1819-1901, souveraine du Royaume-Uni de 1837 à 1901 et impératrice des Indes à partir de 1876. L'ouvrage entend dépasser l'image figée de la veuve austère, emblème commode de l'Empire britannique, pour restituer une femme de pouvoir aux convictions nettes et aux contradictions assumées. Il suit son accession précoce au trône, son émancipation vis-à-vis de l'entourage maternel, son union avec le prince Albert, sa vie familiale et ses rapports avec les responsables politiques de son temps. Le livre examine aussi le fonctionnement concret d'une monarchie constitutionnelle. Victoria ne gouverne pas seule, mais elle cherche constamment à peser sur les choix, les nominations et le prestige de la couronne. À travers ce parcours individuel, Moulin fait du règne victorien une porte d'entrée vers l'histoire politique et sociale britannique du XIXe siècle. La biographie privilégie ainsi l'articulation entre tempérament personnel, devoir dynastique et transformation d'un empire mondial. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une accession conçue comme un devoir, plutôt que comme une consécration personnelle. Le point de départ de la biographie est la précocité avec laquelle Victoria est confrontée à son destin dynastique. La formule qui lui est attribuée à 11 ans. « Je ferai de mon mieux » sert moins à fabriquer une légende édifiante qu'à caractériser une disposition durable, la conscience d'une charge lourde, accompagnée d'une volonté de l'assumer, lorsqu'elle devient reine à 18 ans. Victoria refuse notamment que sa mère et les conseillers liés à celle-ci s'installent comme médiateurs obligés entre elle et l'exercice du pouvoir. Ce geste d'indépendance éclaire le portrait proposé par Moulin. La jeune reine ne se contente pas d'occuper une fonction héritée, elle veut en maîtriser les conditions concrètes. Cette entrée en règne permet aussi de comprendre la fragilité initiale de la monarchie. Une souveraine jeune, inexpérimentée et soumise à l'attention du public, doit établir son autorité dans un système où le gouvernement relève des ministres et du Parlement. L'intérêt du livre est de ne pas réduire cette situation à une anecdote familiale. L'émancipation de Victoria face à son entourage devient le premier acte d'une pratique du règne fondée sur l'accès direct à l'information. L'affirmation de préférence politique et la défense jalouse de sa position institutionnelle. Deuxièmement, le couple Victoria-Albert soutient intellectuel. Dynastie et limite du partage du pouvoir, la place du prince Albert est essentielle dans le parcours de Victoria. Mais l'ouvrage le présente d'abord à l'intérieur d'une relation qui mêle affection conjugale, intérêt dynastique et apprentissage du métier royal. Leur mariage donne à la reine un partenaire instruit et engagé dans les affaires publiques, tout en soulevant une question constitutionnelle délicate Albert ne possède pas. Par lui-même, l'autorité de la souveraine. Le soutien qu'il apporte ne doit donc pas être confondu avec une substitution à la reine. Cette nuance importe pour lire Victoria comme une actrice politique à part entière. La biographie rappelle également la dimension familiale de son règne, le couple a 9 enfants, dont le futur Édouard VII. La maternité, les mariages princiers et les liens de parenté européens ne relèvent pas seulement de l'intime. Il participe à la représentation internationale de la dynastie. En articulant la vie conjugale et la fonction souveraine, Moulin évite l'opposition simpliste entre une Victoria privée et une Victoria publique. Le foyer royal devient un lieu où se construisent des idées, des alliances et une image de stabilité. Après la mort d'Albert, le deuil durable de Victoria modifie profondément cette image, sans effacer la continuité de son investissement dans les affaires de la couronne. Troisièmement, exercer une influence réelle dans les règles de la monarchie constitutionnelle. L'un des apports centraux de cette biographie est de rappeler que le caractère constitutionnel de la monarchie britannique ne rendait pas Victoria politiquement passive. Le souverain ne disposait pas d'un pouvoir gouvernemental autonome comparable à celui d'un monarque absolu. Il devait composer avec les cabinets, le parlement et les majorités partisanes. Toutefois, la reine recevait les ministres, suivait les dossiers, échangeait une correspondance politique et pouvait faire connaître avec insistance ses préférences. Moulin insiste ainsi sur son souci d'accroître le rayonnement de la monarchie tout en conservant une influence effective. Ses relations avec Lord Melbourne, Benjamin Disraeli et William Gladstone illustrent la variété de ses rapports accompagnement d'une jeune souveraine par le premier, affinité plus marquée avec le second, relation plus difficile avec le troisième. Il ne s'agit pas d'attribuer à Victoria les décisions des gouvernements, mais de mesurer la latitude d'action offerte par les usages institutionnels et par la longévité du règne. La reine peut défendre la continuité, peser dans les échanges et rappeler aux responsables élus la dimension symbolique de la couronne. Le livre intéresse donc aussi les lecteurs qui veulent comprendre comment l'influence politique se construit sans se confondre avec la décision législative ou ministérielle. Quatrièmement, les contradictions sociales et morales d'une reine bourgeoise. Moulin met en avant plusieurs positions qui empêchent de réduire Victoria à une icône conservatrice uniforme. La reine méprise l'arrogance aristocratique et conçoit volontiers la noblesse comme une récompense du mérite plutôt que comme le simple privilège de la naissance. Cette disposition est significative dans une société britannique encore fortement hiérarchisée, elle ne constitue pas un rejet de l'ordre social ou de la monarchie. Mais elle révèle une exigence de service et de respectabilité. De même, Victoria est décrite comme profondément chrétienne tout en étant hostile à la bigoterie. La distinction permet de saisir une morale de devoir qui n'est pas identique à l'adhésion à toutes les rigidités religieuses ou sociales de son époque. Sa défiance envers la spéculation complète ce portrait d'une souveraine attachée à la stabilité, au travail et à une certaine éthique bourgeoise. Ces éléments ne doivent pas être anachroniquement transformés en programmes politiques modernes. Leur intérêt est plutôt d'expliquer comment Victoria fonde ses jugements sur des valeurs personnelles, puis les projette dans son regard sur les élites et la vie publique. La biographie fait ressortir cette tension gardienne d'une institution héréditaire, elle valorise pourtant le mérite. Souveraine très croyante, elle refuse l'ostentation dévote. Figure impériale, elle conserve des réflexes de prudence et d'économie. En dernier lieu, une reine devenue symbole d'époque, sans être réductible au victorianisme. Le règne de Victoria, qui s'étend de 1837 à 1901, coïncide avec des mutations majeures du Royaume-Uni et l'expansion de l'Empire britannique. Cette durée exceptionnelle a favorisé l'identification de la souveraine à tout un siècle, au point que son nom est devenu une catégorie historique, l'époque victorienne. Moulin prend appui sur cette puissance symbolique, mais son projet consiste précisément à en montrer les limites. Victoria est impératrice des Indes et souvent qualifiée de grand-mère de l'Europe en raison de la diffusion de sa descendance parmi les familles royales. Elle incarne donc une monarchie connectée à l'échelle impériale et continentale. Pourtant, l'icône publique, notamment celle de la veuve sévère, ne résume ni son tempérament ni l'ensemble de son action. L'ouvrage invite à distinguer l'histoire d'une personne de la construction ultérieure d'un mythe national. Cette précaution est utile pour comprendre le 19e siècle britannique, les valeurs dites victoriennes ne forment pas un bloc homogène. Pas plus que la reine ne contrôle seule les évolutions politiques, économiques ou sociales de son temps, en suivant son itinéraire. Le livre offre un cadre biographique pour relier institutions, familles régnantes, cultures monarchiques et imaginaire impérial, tout en conservant la complexité d'une souveraine au caractère affirmé. En conclusion, cette biographie s'adresse en priorité aux lecteurs d'histoire britannique, aux amateurs de vie royale et à ceux qui souhaitent comprendre la place réelle d'un monarque dans un régime constitutionnel. Elle peut également intéresser les lecteurs qui connaissent surtout Victoria par les stéréotypes associés à l'époque victorienne, la veuve en noir, la morale rigide ou l'apogée impériale. Le bénéfice intellectuel principal du livre est de réintroduire de la précision dans ces images. Victoria apparaît à la fois comme une femme attachée à son indépendance, une épouse et mère au cœur d'une vaste dynastie européenne, et une souveraine attentive à préserver son influence auprès des gouvernements successifs. Par rapport à une synthèse générale sur le 19e siècle britannique, Victoria, reine d'un siècle, offre l'avantage d'un point de vue incarné les transformations de l'époque sont abordées à travers les responsabilités, les relations et les convictions de la reine, à l'inverse d'une biographie hagiographique. Son positionnement repose sur la complexité du personnage attachement à l'ordre monarchique et valorisation du mérite, foi chrétienne et rejet de la bigoterie. Image publique austère et tempérament passionné. La présence d'arbres généalogiques et d'une bibliographie renforce son utilité comme ouvrage d'orientation. Il faut toutefois l'aborder comme une biographie centrée sur Victoria, non comme une histoire exhaustive de l'Empire ou de toutes les réalités sociales victoriennes. C'est précisément cette focalisation alliée à l'attention portée à son pouvoir concret qui le distingue dans son genre. Si vous souhaitez soutenir Joannie Moulin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.